France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Alors, je vous préviens d'emblée, il va falloir excuser mon très mauvais accent suédois. Oui, suédois, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Flixcam et Turkskit, ou plus clairement, cette idée partie de Suède donc, et notamment portée par la militante écologiste Greta Thunberg, la honte de prendre l'avion, avis honte, selon le terme francisé, même si encore assez méconnu, et son corollaire, la fierté de prendre le train. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors il y a des chiffres, des études, elles ne manquent pas, ces chiffres sur l'ampleur du phénomène. Tout d'abord, 250 millions de personnes qui prennent l'avion pour leur loisir, ou ces autres chiffres qui rappellent à quel point l'aérien est indiscutablement un secteur qui rime avec pollueur, 2,5% des émissions mondiales de CO2. Ces études aussi, comme celles de l'IFOP le mois dernier, pour la moitié des Français, l'enjeu écologique ne change rien dans leur intention de prendre l'avion, mais c'est un peu ou beaucoup le cas pour un tiers d'entre nous. Et puis il y a aussi ces éléments plus intangibles, mais qu'on va essayer d'identifier avec vous ce soir. Comment cette honte de prendre l'avion a-t-elle pu devenir un outil de régulation sociale face à l'urgence climatique? Mais comment aussi, après avoir eu le vent en poupe en 2018 et dans les années qui ont suivi, ce sentiment semble en recul? Parce que on s'accommode avec la réalité, on se déculpabilise en se disant qu'en triant ses déchets toute l'année, on peut bien s'offrir un petit voyage au Japon cet été, ou parce que bon, de toute façon, la planète est foutue. Alors, sans parler des raisons économiques, le train est si cher, vous comprenez. Moi, alors autant le mettre dès à présent sur le tarmac également. J'ai pris l'avion cette année, un aller-retour pour 4 jours à Florence pour le plaisir de surcroît. Voilà, c'est dit, c'est à vous de jouer maintenant. Vous connaissez le chemin, 01 45 24 7000, par téléphone ou WhatsApp. On vous accueille aussi par mail ou via l'appli France Inter. Bref, c'est le téléphone sonne et comme tous les soirs, vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et pour commencer, on accueille David. David, vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Bienvenue à vous.
Oui, bonjour.
Bonsoir. Quelle est votre question? Votre témoignage, peut-être?
Alors, c'était par rapport à ce que vous disiez. En fait, moi, je travaille dans le nucléaire. J'y suis allé il y a une quinzaine d'années en reconversion, quand c'était un petit peu, même plus, ça fait 2008. Donc, je fais une formation reconversion. Et en fait, en pensant que c'était une bonne chose, je suis ingénieur. C'était pragmatique, quoi. S'il fallait réduire le CO2, je suis allé là-dedans sans trop penser à l'aspect politique. Et en fait, ça a été assez compliqué parce que rapidement, je me suis rendu compte que on était vraiment stigmatisé. Et donc, je me suis rendu compte que ce fait qu'on n'était pas reconnu dans nos efforts de décarbonation, pendant qu'il y en a qui passent leur temps à critiquer le nucléaire, mais qui se privent pas d'aller deux fois au Costa Rica pour prendre des photos ou jouer les Che Guevaristes. Ben en fait, moi, je pense que je prends l'avion parce que, ben en fait, c'est pour compenser leur hypocrisie. C'est moi, j'assume de prendre une fois l'avion pour voyager. Je pense que je fais ma part. Et je pense que le jour où ce travail, c'est-à-dire ces efforts qu'on fait pour produire une énergie qui est vraiment décarbonée seront reconnus, et ben en fait, j'aurai peut-être pas besoin de compenser, en fait. C'est-à-dire, moi, je compense parce que je trouve que ce que je fais n'est pas reconnu. Donc.
Et quand vous dites « je fais ma part », comment est-ce que vous estimez que vous faites votre part, justement?
Ben, en fait, en participant à la production d'une énergie décarbonée, on fait vraiment, vraiment, on fait, la France, d'ailleurs, est assez très performante là-dessus, grâce à ça. Grâce à
l'électricité. Et donc, vous compensez, finalement, à titre individuel, c'est comme ça que vous le vivez?
En fait, je compense parce que je vis très mal le fait qu'on soit stigmatisé. C'est-à-dire, je trouve qu'on fait des efforts. Moi, je me suis reconverti pour ça. Et j'avais complètement occulté l'aspect. J'ai repris un an d'études. J'avais complètement l'aspect politique. C'est-à-dire, pour moi, pour un ingénieur, c'était une évidence. C'est-à-dire, on parle souvent de danger. Le danger, il est minimal par rapport à d'autres choses. Je viens de la chimie et je peux vous dire que la chimie, on met des moyens bien, bien inférieurs. C'est-à-dire, si on appliquait à la chimie ce qu'on fait au nucléaire, il n'y aurait pas de chimie. Donc, en fait, il n'y a pas de mort. Fukushima, il y a zéro mort. Alors qu'on a beaucoup dit le contraire, zéro mort lié au nucléaire.
On va essayer de rester sur notre sujet plus précis, sur l'avion, si vous permettez.
Du coup le jour où on reconnaîtra mon travail, je pense que je serais plus exigeant avec moi-même. Mais je vois trop de gens qui me font la morale, qui me font la morale, et qui me racontent leur séjour en Amérique du Sud ou autre. Et donc, ça m'agace, quoi.
Donc, on a bien compris. Merci beaucoup pour votre témoignage, David. On va accueillir nos invités qui vont pouvoir vous répondre tout de suite. Nous accueillons Garance Bazin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorante en anthropologie de l'environnement à l'Université Paris-Nanterre. Et puis nous sommes également en ligne avec Jean Pinard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant en progrès touristique et président de Futurotourisme. Garance Bazin, je me tourne vers vous tout d'abord. Il y a effectivement cette idée assez répandue du fait qu'on s'autorise l'avion parce qu'on compense par ailleurs. C'est quelque chose que vous constatez souvent ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est très présent au quotidien dans les entretiens que je peux faire. Ce qui ressort souvent, c'est je fais des efforts toute l'année, donc je peux me permettre de faire ce petit plaisir, avoir ce trajet parfois court, parfois long. Ça, c'est quelque chose qui a été énormément encouragé par l'industrie de façon générale. On a écrit un rapport avec Greenpeace qui s'appelle « En mode avion », qui analyse, par exemple, les imaginaires promus dans les pubs de l'aérien. Et ce qui est très, très vite remarquable, c'est que cette idée qu'un petit geste peut compenser un vol, elle est extrêmement mise en avant.
Là, le problème, c'est celui des ordres de grandeur, non ?
Exactement.
Mettons d'emblée les choses sur la table, c'est-à-dire qu'on peut trier ses déchets pendant des années avant de compenser un vol.
Tout à fait. Bah, par exemple, si vous voulez trier, et non seulement trier, mais réduire vos déchets pour compenser un aller-retour Paris-Bali, ça vous prendra 28 ans et 7 mois. Donc un petit geste n'équivaudra jamais à un trajet en avion. Et j'entends par exemple des gens qui me disent « mais je suis végétarien, donc je peux plus ». Pour un Paris-Bali, ce sera 12 ans en étant végétarien. Et 2 mois, si on veut être exact. Mais oui, c'est le flou entretenu autour des échelles de grandeur, c'est quelque chose qui est très présent, qui est encore très marqué et qui est bien sûr encouragé par ceux qui ont tout à y gagner, qui, à côté de ça, font aussi du technosolutionnisme parce qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux. Et ce n'est pas seulement dans le milieu aérien, ça existe aussi, par exemple, dans le milieu du plastique.
Il y a aussi quelque chose dans ce que nous disait David, mais je voudrais aussi qu'on se tourne vers Jean Pinard. Il y a aussi la pression sociale assez forte, lui le dit, hein, j'en ai marre des gens qui me culpabilisent. Jean Pinard, on revient vers vous. Effectivement, cette question déjà de la culpabilisation et de comment on s'accommode avec notre propre culpabilité, c'est comme ça qu'on pourrait le dire ?
Ouais, moi j'ai bien aimé l'idée de compenser l'hypocrisie. Je trouve que c'est une bonne formule qu'a eu l'auditeur tout à l'heure, parce que oui, je pense que on peut comprendre des gens qui en ont assez, qui ont les montrent du doigt dans leur pratique de loisirs. Il y a, je pense, une manière d'invisibiliser un certain nombre de pratiques qu'on va tolérer dans certaines catégories. Par exemple, on peut prendre sa voiture tout le week-end pour aller dans sa résidence secondaire à Deauville et critiquer ceux qui sont dans les bouchons le samedi et qui partent une fois par an en vacances. Voilà. Donc, il y a une forme de révolte. Et puis, moi, je pense qu'il y a quand même un point qui est important, c'est que, vous l'avez dit vous-même, vous êtes allé à Florence. Avant, il y avait des trains de nuit pour partir de Paris à Florence. Il n'y en a plus aujourd'hui. Et on a remplacé toute cette offre ferroviaire par une solution aérienne. Et on peut aller à Florence à partir de beaucoup plus d'aéroports qu'on ne le faisait avant. Donc, il y a une offre qui est mise à disposition d'un certain nombre de gens. Vous savez, c'est comme au supermarché, quand on attend devant les caisses, il y a plein de friandises, puis on dit, on ne va pas céder. Et puis au bout d'un moment, on se dit, quand même, je serais bien bête de ne pas prendre l'avion pour aller passer un week-end, parce que j'y ai droit aussi.
Effectivement, peut-être Garance Bazin, sur cette question de la culpabilisation et des ordres de grandeur, vous citiez tout un marketing, au fait, finalement, autour de cette culpabilisation-là. Il y a à la fois un marketing qui est celui de pouvoir, qui, je pense, est promu notamment, ou l'a été en tout cas par Air France, de proposer, par exemple, de planter un arbre une fois qu'on a fini d'acheter son billet d'avion. Et il y a aussi celui de la culpabilisation de l'individu en tant que tel, c'est-à-dire, merci de faire vos petits gestes. Je crois que c'était l'aéroport de Nice, notamment, qui avait promu ça. Penser à éteindre la lumière, alors qu'eux-mêmes sont un aéroport. Ça, le poids, finalement, de la pub et du marketing là-dedans, il est très important dans la manière dont les individus, ensuite, vont pouvoir orienter leur choix.
Oui, bien sûr. Et puis, ce système de culpabilisation de l'individu et de transfert de la responsabilité de la pollution, généralement, de ceux qui produisent réellement la pollution, vers l'individu, il existe depuis très longtemps. Déjà, il y a 50 ans, on a vu des publicités qui paraissaient, notamment sur la question du plastique, qui expliquaient que les gens étaient responsables de la pollution, donc les gens pouvaient y mettre fin. Publicité qui était sponsorisée par Coca-Cola et les plus grands industriels du plastique. Il y a des associations qui ont été montées à ce moment-là, qui existent toujours.
C'est l'idée de l'hypocrisie de ce que nous disait notre auditeur.
Exactement.
On en revient là, oui.
Tout à fait. Mais ce transfert de la responsabilité de ceux qui produisent réellement la pollution aux individus, elle existe encore, elle est extrêmement prenante. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de repolitiser les petits gestes. Parce que cette théorie du colibri qu'on entend beaucoup avec les Pierre Rabhi, etc., qui a un intérêt, n'est absolument pas détachable de l'intérêt collectif. Il y a David parlait de faire sa part, c'est-à-dire que lui, il fait sa part. Il y a une étude d'un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui est sortie il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Faire sa part, et qui explique que si on avait tous, au niveau français, un comportement exemplaire, voire héroïque, on arrive, c'est-à-dire qu'on arrêtait de prendre l'avion, qu'on était tous végétariens, au pays du bœuf bourguignon tout de même, qu'on s'habillait en seconde main, qu'on achetait que du reconditionné, etc., etc., on arriverait à 25% des efforts en termes de réduction d'émissions nécessaires pour atteindre l'objectif des moins de 2 degrés de l'accord de Paris. Ça veut dire que même en étant au max, ce qui est profondément irréaliste, on ne serait qu'à maximum, il manquerait quand même 75% des efforts qui sont imputables à l'État et aux entreprises. Donc ne penser qu'au niveau des gestes individuels, non seulement ça décourage les gens qui n'ont pas tous les moyens de performer ces petits gestes, mais en plus ça passe complètement à côté de l'idée. En plus, il faut bien sûr rappeler que tout le monde ne pollue pas de la même façon. Dire que tout le monde a son effort à faire, doit faire sa part, bien sûr. Mais aujourd'hui, plus on gagne d'argent, plus on pollue. Et dire, par exemple, qu'il faut limiter l'avion et limiter la voiture, ça n'a pas du tout déjà le même impact. Quelqu'un qui n'a pas de moyens de faire autrement que de prendre sa voiture pour aller au travail parce qu'il n'y a simplement pas d'autres choses qui sont mises en place à côté, ça ne sert à rien de le blâmer, en fait. On est simplement conditionné par le système tel qu'il existe. Et s'il n'y a pas de bus, la personne prendra la voiture.
Je vous propose qu'on accueille Martin. Bonsoir Martin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, ce qui m'a décidé effectivement à ne plus prendre l'avion, y a deux choses. Il y a effectivement, j'ai fait mon bilan carbone et j'ai vu que c'était sans commune mesure avec tous les petits gestes que je pouvais faire dans l'année. Mais c'est aussi que, en fait, je m'y retrouve pas. C'est-à-dire que, on m'avait proposé par exemple de partir dans les Andes. En avion, en Amérique du Sud, et j'ai réalisé qu'en fait, si je prenais l'avion, j'allais contribuer à la fonte des glaciers que j'allais admirer. Donc en fait, j'y trouvais pas de sens. Je me dis, je peux pas en même temps vouloir admirer un paysage et en même temps contribuer à sa destruction. Et donc voilà, pour l'instant, je tiens bon. C'est vrai que je suis d'un milieu où ça voyage beaucoup, où les gens sont extrêmement heureux et fiers de raconter leur voyage. J'ai renoncé à ça, ça me coûte. Mais vraiment, j'y trouvais plus de sens, en fait.
Oui, pour vous, cette avis-honte, là, pour reprendre cette expression, a été plus forte, finalement.
Ouais, alors c'est pas tellement de la honte, c'est vraiment moi. Moi, comment est-ce que je le ressens moi-même? C'est-à-dire que si les gens veulent continuer à prendre l'avion, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais moi, en tout cas, c'était vraiment être en accord avec moi-même, plus qu'un sentiment de honte, de peur de ce que peuvent dire les gens ou ça, ce genre de choses.
Merci beaucoup Martin. Jean Pinard, ce que nous disait Martin aussi, c'est finalement les copains qui nous proposent de partir avec eux, le poids finalement aussi du milieu social, de l'entourage, etc., qui peut peser dans nos choix touristiques.
Bah oui, il y a une forme d'injonction un peu paradoxale d'ailleurs. Parce
une valorisation sociale aussi du voyage en avion.
Mais ce que dit, alors ça c'est vrai, mais ce que dit David est très juste sur cette injonction paradoxale, c'est que on a tous envie d'aller voir les ours polaires, mais on sait que c'est ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance. Donc plus on va y aller, plus on va les faire disparaître. Alors il y a des gens qui sont responsables, David en fait partie, et puis il y en a d'autres qui disent finalement un peu ce qui était dit en introduction, hein, foutu pour foutu, autant y aller parce que au moins on le verra. Donc ouais, ça c'est quelque chose de difficile, mais je reviens sur la difficulté, parce qu'on peut culpabiliser les gens, hein, mais la difficulté c'est de maîtriser l'offre. Et ce qui est absolument regrettable, c'est que en fait il y a aucune capacité à réglementer l'offre. Cette année, moi j'ai calculé, il y a 109 destinations en plus au départ des aéroports français en avion. Donc voilà, on laisse proliférer les compagnies, en particulier les compagnies low cost, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en plus on les aide financièrement. Et cette année, vous voyez, on a fait disparaître le passe-rail pour les jeunes, et puis on va continuer à subventionner les compagnies low cost pour remplacer le train par l'avion, et ça c'est terrible.
Le passe-rail, hein, juste pour le rappeler, effectivement c'est le premier été qu'il n'existe plus, c'était ce dispositif pour les 16-27 ans, à 49 euros par mois, qui promettait les TER et Intercité en illimité. Effectivement, on a également des messages hein, sur « Tant que les élus ne prendront pas les choses en main avec des actes structurants de fond, on n'arrivera à rien », nous dit Didier via WhatsApp. Il y a cette idée qu'à un moment donné, il faut que les politiques et la législation prennent le relais, que ce soit sur le train ou autre. Le train trop cher, on l'entend très souvent, parce que c'est trop facile finalement, Garance Bazin, de faire reposer sur l'individu seul la responsabilité de l'arrêt de l'avion ou en tout cas de sa diminution.
Non seulement c'est trop facile, mais c'est profondément injuste aussi. Généralement, les personnes qu'on blâme le plus sont celles qui n'ont pas les moyens de performer ce que Jean-Baptiste Combi, qui est sociologue, appelle la morale éco-citoyenne, c'est-à-dire tous ces petits gestes, changer du gaz à la pompe à chaleur, trier ses déchets, faire son compost, alors que généralement, c'est les personnes qui ont le moins de moyens qui polluent le moins. Donc avec tout ça, ça nous permet d'abord d'avoir un type d'écologie qui est très domestiquée, qui est inoffensive, qui est privée aussi, là où non seulement ça finit souvent par désespérer les gens, et en plus c'est de loin pas ce qui est le plus efficace. Ce qui est le plus efficace, c'est de politiser ses actions, de l'inscrire dans un tout, d'accorder le reste de son engagement à cet engagement écologique, parce que sinon on reste sur de très accessoires, simplement. Et ce que disait Jean Pinard était tout à fait juste. Il faut bien sûr maîtriser l'offre, et aujourd'hui, on dit aux gens d'arrêter de prendre l'avion, mais le train est 2,6 fois plus cher que l'avion en France.
Alors qu'il est 80 fois moins polluant, je crois,
c'est dans cet ordre d'idée. Pour un Paris-Marseille, ouais. En moyenne, il est entre 20 à 50 fois moins polluant, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais oui, bien sûr, tant qu'on restera dans ces injonctions paradoxales, et qu'en plus, il n'y aura aucune exemplarité au niveau de notre classe politique, ou des personnes simplement plus puissantes, là, je crois que c'était le 19 juin, on a vu notre Premier ministre faire un aller-retour en jet privé pour faire 27 minutes de discours sur les énergies renouvelables. Parmi mes enquêtés, il y en a qui se sont arrachés les cheveux. Mmh. Et ça rend d'autant plus compliqué de maintenir leurs efforts alors qu'ils ont l'impression que tout le reste du monde va dans un sens complètement opposé.
Alors sur le train notamment, il y a quand même malgré tout des mesures. Il y a l'interdiction des vols nationaux sur les vols en dessous de... Alors je vous vois faire la moue, vous allez répondre tout de suite. Juste les trajets de moins de 2h30, les Orly-Bordeaux, les Orly-Lyon, etc. Vous faites la moue parce que ça ne suffit pas, parce que c'est absurde.
Parce qu'au final, il y a eu très peu de liaisons qui ont été concernées. En fait, c'est une mesure qui a été complètement vidée de sa substance. J'étais à Nantes il y a quelques semaines avec une députée écologiste qui s'appelle Julie Lahernos, qui travaille aussi là-dessus. Et on se rendait compte qu'en fait, il y a effectivement très peu de liaisons qui ont été concernées. Comme beaucoup de choses dans la Convention citoyenne, c'est quelque chose qui a été complètement vidé de sa substance. Et au final, c'est des mesures qui restent très cosmétiques. Aujourd'hui, il y a 59% des Français qui sont favorables à l'interdiction des jets privés parmi les jeunes. 84% qui sont favorables au rééquilibrage entre les billets d'avion et les billets de train en termes de tarifs. Et... ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Par rapport à ce qui est prôné, on va dans un sens qui est complètement différent.
Sur ce sujet, on accueille Anne-Frédéric. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, je crois que vous venez au parler des billets de train.
Bah, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que bah, moi, là, récemment, j'ai été amenée... Enfin, oui, j'ai pris l'avion récemment parce que bah, quand j'étais prête à prendre le train... Hein. J'ai le temps, voilà. Mais le prix du billet de train est une fois, enfin non, c'est pas une fois, c'est deux fois, trois fois, quatre fois le prix de l'avion. Donc c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mm-hmm. Moi, j'ai le temps de prendre le train, mais quand c'est quatre fois plus cher, eh ben non, je ne prends pas le train.
Oui, l'équation est vite résolue.
Ben, oui, et franchement, alors Je calme mon anxiété parce que je le fais pas de gaieté de cœur, mais en restant longtemps dans ma destination. Mais voilà, mais c'est il y a un non-sens.
Il y a un non-sens. Merci beaucoup Anne-Frédéric Jean-Pinard. Effectivement, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, cet argument du train trop cher, tout simplement.
Oui, alors c'est intéressant parce que vous savez que les régions ont la compétence hein, pour faire rouler les TER. Personne ne se plaint des tarifs de TER parce que les régions font baisser le prix dans leur relation avec la SNCF, compensent une partie des abonnements pour les jeunes ou pour les navetteurs qui prennent le train du lundi au vendredi pour aller au travail. Moi, j'ai travaillé en Occitanie. La région Occitanie payait des billets de train à 1 euro tous les premiers week-ends de chaque mois. Ça faisait 135 000 personnes qui, chaque week-end, prenaient le train pour partir en loisir, partir au bord de la plage ou même aller voir des familles et des amis. Ça veut dire que si on fait des efforts sur le prix, et c'est un vrai choix politique, on y arrive. Le problème, c'est que ça, c'est à l'échelle d'une région. L'État n'a pas du tout fait le même choix pour faire baisser les prix des billets. Alors moi, je pense en particulier aux jeunes, parce que je ne comprends toujours pas qu'un jeune en Europe ne reçoive pas l'année de ses 18 ans une carte Interrail pour visiter l'Europe alors pendant un mois, le mois de son choix. Voilà, si on veut construire le sentiment européen, je pense qu'il faut aussi qu'on aide la jeunesse à fraterniser, à rencontrer d'autres gens, et à découvrir d'autres paysages, d'autres pays. Ça coûte pas si cher que ça. En tout cas, moi, je peux vous promettre que si on additionnait, parce que ça, c'est très secret, mais si on additionnait toutes les aides qui sont données aux compagnies aériennes, ça serait très facile de financer ce genre de billets. Mais le choix politique est autre.
France Inter. Le téléphone sonne.
Vous êtes bien au téléphone sonne, on parle de la honte de prendre l'avion et est-elle en recul ou non? Nous sommes avec Garance Bazin, doctorante en anthropologie de l'environnement, avec Jean Pinard, président de Futurotourisme. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec vous et je voudrais d'ailleurs accueillir un troisième invité sur ce sujet, c'est l'exemplarité, la notion d'exemplarité. On a des célébrités j'ai lu des choses sur Taylor Swift en préparant cette émission, plus de 8000 tonnes de CO2 par an avec son jet privé. On rappelle que l'objectif est à 2 tonnes par an. Et il y a également la question des influenceurs, notamment sur les contenus voyage. Nous accueillons Benjamin Martini. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'être avec nous. Je crois que nos auditeurs vous connaissent peut-être sous le surnom de Tolt. En tout cas, c'est votre nom de créateur contenu. Vous créez des contenus voyage et vous avez décidé, il y a quelques années, d'arrêter non seulement de prendre l'avion, mais surtout d'arrêter de le promouvoir.
Exactement, jusqu'en 2018 et même jusqu'en 2019, près de la moitié de mon chiffre d'affaires reposait sur les compagnies aériennes, puisque je travaillais beaucoup pour des compagnies aériennes. Et donc à l'été 2019, j'ai pris la décision d'arrêter de prendre et promouvoir l'avion, et ça s'est très bien passé.
Et je vous ai vu d'ailleurs, pour tout vous dire aussi, dénoncer ce que d'autres créateurs de contenu voyage ne font pas, c'est-à-dire ce paradoxe entre valoriser un rapport à la planète et à la nature plus écologique et continuer à prendre et surtout à promouvoir les vols à tout bout de champ finalement.
C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des symboles liés au voyage qui sont quand même toujours très attachés à l'avion et... C'est pas que les influenceurs, évidemment. Il suffit de faire une recherche voyage sur Google pour se rendre compte qu'il y a les premières images qui ressortent, c'est des photos d'avions. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de créateurs et d'influenceurs qui perpétuent un peu ces symboles. Et c'est vrai que moi, je regrette beaucoup qu'il y ait autant de gens qui mettent à profit leur talent, leur visibilité, leur notoriété pour, on va dire, continuer à nous lancer à pleine vitesse dans le mur. Et c'est vrai que généralement, j'essaie de les interpeller gentiment, avec bienveillance et avec pédagogie sur ce sujet. Mm-hmm. Ça marche pas toujours, mais je pense que c'est super important que justement, aujourd'hui, les internautes s'empare un peu de ça et justement mettre des commentaires tout en restant vraiment respectueux, mais qu'on prenne l'habitude de questionner un peu ce réflexe de prendre l'avion et ses symboles.
Et vous, dans votre propre communauté, vous avez l'impression d'avoir été compris déjà dans ce choix et peut-être même suivi ?
C'est très difficile de le mesurer parce que ma décision, vu qu'elle a été prise juste avant le Covid, finalement, la transition, elle s'est faite un peu naturellement, puisque j'avais pris la décision avant de savoir que, évidemment, à l'époque, je savais pas qu'il y aurait
un confinement généralisé,
une pandémie, ouais. Et que je savais pas que les avions seraient cloués au sol et qu'on pourrait voyager qu'à 100 km de là où on habite. Ça, je l'avais pas du tout anticipé, mais de fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, à ce moment-là, en fait, le fait de prendre l'avion. La question se posait pas vraiment. Et donc, au moment de ma transition, j'ai pas eu tant besoin de l'expliquer puisque c'était un peu le cas pour tout le monde. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que le voyage en train aujourd'hui, le voyage bas carbone, même en général, puisque le voyage à vélo aussi, ça cartonne. Nous, on le voit, que ce soit sur mes réseaux ou ceux de Ouai, le média que j'ai lancé justement qui est dédié au voyage bas carbone, eh bien, on fait des vidéos à des millions de vues parce que les gens ont soif de train et ça s'observe aussi au niveau des ventes de billets de SNCF ou d'autres opérateurs.
Oui, parce que rappelons-le, vous avez arrêté de prendre l'avion, mais vous n'avez pas arrêté de voyager. Garance Bazin, là-dessus, sur ce besoin aussi d'exemplarité et de pouvoir s'identifier à des gens qui voyagent et qui voyagent autrement, c'est important.
Oui, bien sûr, proposer des modèles alternatifs, c'est très important, ne serait-ce que pour pouvoir se projeter dans un futur désirable qui ne rime pas forcément avec énergie fossile. Et de toute façon, la question de l'exemplarité, mais aussi de la justice sociale, est absolument essentielle pour faire accepter des mesures et des lois favorables à la décarbonation, à l'environnement en général. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas tout à fait là-dessus. Mais d'avoir des exemples positifs, plutôt que de dire « ne fais pas ça », montrer plutôt à quel point faire autrement peut être désirable. Ne pas rester uniquement dans le négatif, mais proposer des imaginaires agréables et pas juste répressifs, c'est absolument nécessaire. Parce que de la même façon que les gens qui se disent « je prendrai plus jamais l'avion de ma vie », ont beaucoup plus de mal à tenir que ceux qui se disent « pour l'instant, j'ai décidé que je ne le prendrai plus, je ne sais pas si ça durera toute ma vie ». Mais de ne pas avoir cette pression en se disant « c'est fini à vie », ça rend les choses beaucoup plus simples. Et c'est pareil pour les personnes qui sont végétariennes ou véganes, de se dire qu'on ne mangerait plus jamais de cuisses de poulet, c'est beaucoup plus stressant et c'est beaucoup plus de pression que de se dire « j'ai décidé de plus en manger, on verra ce que je ferai dans l'avenir ».
Nous avons reçu une note vocale au téléphone sonne, je vous propose qu'on la découvre tout de suite.
Bonjour France Inter, moi j'ai 27 ans et je me rends compte qu'il y a quelques années, ma génération, on était super fiers de poster sur Instagram des photos de nuages ou de terre vue du ciel prises par la fenêtre du hublot de l'avion. Et puis aujourd'hui, bah, on poste toujours nos photos de vacances, de plages, de montagnes, mais on passe un peu sous silence le moyen de transport qui nous a emmenés jusque-là. Parce qu'on nous a répété, et à raison, qu'en fait, prendre l'avion pour aller en vacances, bah, c'est un peu la honte.
Très intéressante cette note vocale, Jean Pinard, effectivement, sur aussi ce qu'on partage finalement désormais nos vacances, peut-être un peu moins l'avion et le hublot.
Ben oui, on cache le moyen de transport. Vous savez, le tourisme, c'est une économie qui est née du voyage, donc de la mobilité. Donc c'est compliqué aujourd'hui, hein, pour les acteurs du tourisme de valider le fait que il faudrait moins voyager parce que ça fait moins de business. C'est ça qui est compliqué. Et puis il y a une réflexion politique, hein, pour qu'il y ait une trajectoire bas carbone pour le tourisme, mais on n'a pas été en capacité de faire moi, ce que j'appelle une COP tourisme pour dire, ce type de vol, par exemple pour venir des États-Unis à Paris, on peut pas faire autrement. Par contre, pour aller de Bâle à Montpellier, oui, on peut éviter de prendre l'avion. Mais ce que je note, moi, parce que je vois beaucoup de CV passer de jeunes qui cherchent du boulot, il y a eu un moment où on mettait très souvent, vous savez, dans la case d'hiver en bas du CV, j'ai fait l'Australie, j'ai fait, d'ailleurs, c'est marrant cette expression, hein, j'ai fait, comme
oui.
Si on avait coché une case, voilà. Et aujourd'hui, ça change. C'est plutôt, voilà, j'ai traversé le Massif Central en VTT. Donc il y a une autre manière de valoriser le fait d'avoir voyagé quand on était jeune, parce que Montaigne le disait, hein, le voyage forme la jeunesse, en tout cas, voilà, il participe à l'émancipation des jeunes, et ça reste un point positif. Mais on ne raconte plus la même histoire.
Nous sommes en ligne avec Virginie. Bonsoir Virginie.
Bonsoir. Oui, mais écoutez, alors j'ai raté le début de l'émission, que j'écouterai le replay avec plaisir, parce que le sujet m'intéresse. Donc moi, ce que j'avais envoyé comme message, c'est qu'en fait je dois aller pour le travail 2 jours par semaine, c'est beaucoup, à Paris, et je suis dans le sud de la France, donc j'ai pas trop de moyens pour être à l'heure à Paris. Je préférerais prendre le train si on me payait une nuit supplémentaire, mais ce n'est pas le cas. Donc quand je peux, je prends le train. Donc c'est vrai que je suis dans une situation où, en fait, j'évite de poster, de dire que je prends l'avion parce que j'ai un peu honte, j'avoue. Surtout que je suis quelqu'un qui fait du compost depuis des années, qui achète plus de bouteilles d'eau depuis des années, qui fait attention. Je suis pas irréprochable, mais je fais attention.
Oh, personne ne l'est, rassurez-vous.
Voilà. Mais après, ce qui m'agace, alors peut-être ça m'arrange un peu de dire ça, c'est que quand je vois que l'avion, alors je sais pas si vous en avez parlé en début d'émission, au niveau de, je crois que c'est 2,4% de pollution, mais quand je vois les paquebots qui viennent polluer Venise ou d'autres ports, les océans et tout ça, et là c'est que pour le plaisir, je me dis, il y a peut-être des choses à mettre en place avant, plutôt que d'interdire forcément. Des fois, on n'a pas le choix au niveau de l'avion. On a toujours le choix, hein, je suis d'accord. Mais par exemple, je me dis, on pourrait limiter, je sais pas, un vol long courrier par personne par an. Il y aurait des choses à mettre en place. parce que j'estime qu'il y a tellement d'autres efforts encore à faire que ça serait peut-être intéressant de vraiment creuser et de faire passer les bonnes informations que, comme vous le disiez tout à l'heure, les politiques jouent le jeu. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là où je m'interroge, mais oui, c'est vrai que j'ai honte de dire que je prends l'avion toutes les semaines. Ça, c'est vrai.
Merci beaucoup Virginie pour votre témoignage. Garance Bazin, au-delà de la honte que nous partage Virginie, il y a, et j'ai l'impression que ça ressort beaucoup là au fil de l'émission, quand même cette demande d'une législation, la proposition de Virginie étant de dire on peut limiter à un vol par an et par personne pour le plaisir, mais peut-être plus largement une attente d'un gouvernement ou de nos dirigeants de s'emparer de cette question de l'avion. C'est quelque chose que vous avez constaté ?
Oui, tout à fait. Le besoin et l'envie de législation plus sérieuse, plus stricte, il est énorme. Pour revenir rapidement, on estime que c'est 2,5% de l'empreinte carbone mondiale, l'aérien. Si on compte les effets hors CO2, c'est-à-dire pas que le carbone, par exemple le méthane, l'azote, les traînées de condensation, les autres choses qui peuvent réchauffer, on est plutôt autour de 6%, donc c'est pas tout à fait négligeable. Et en France, si on compte toute la chaîne, l'aérien, c'est 15% de notre empreinte. Donc c'est pas négligeable, effectivement.
Oui, c'est pour ça qu'on en parle aussi ce soir, c'est-à-dire que c'est probablement le geste à titre individuel qui est le plus marquant quand on veut peser sur une meilleure, enfin laisser une meilleure empreinte écologique, en tout cas à titre individuel.
Si vous êtes quelqu'un qui prend l'avion, ce que vous pouvez faire effectivement de plus efficace, c'est l'arrêter. Après, il faut garder en tête qu'il y a seulement 11% des Français qui le prennent plus de deux fois par an. Déjà, qui le prennent entre un et deux fois par an, c'est pas tant que ça non plus. Donc ça reste un mode de transport très inégalitaire qui ne concerne en fait qu'une petite partie de la population, mais qui pollue de façon complètement démesurée par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent. Mais toutes ces questions de justice sociale sont absolument nécessaires. Un besoin de législation plus stricte, il est demandé extrêmement régulièrement. On l'a toujours pas, malheureusement. On estime que si on compte toutes les différentes exemptions fiscales du milieu aérien, c'est presque 10 milliards qu'on pourrait avoir chaque année en plus, donc de manque à gagner actuellement pour l'État.
C'est qui tout pourrait être négligé, investi ailleurs.
À l'heure où on cherche beaucoup d'économies, oui, tout à fait.
Notamment, Jean Pinard, sur la question des investissements, il y a aussi l'espoir de beaucoup, je l'ai lu en préparant cette émission, d'un avion un jour, peut-être à moyen ou à long terme, on verra, plus décarboné. C'est quelque chose qui est aussi l'espoir de chacun pour pouvoir malgré tout continuer à prendre l'avion de manière un peu plus déculpabilisée.
Et moi, j'ai travaillé 6 ans à Toulouse, donc je peux vous dire que oui, je pense que c'est une obsession chez Airbus de répondre à cette problématique, en tout cas de trouver des solutions. Pour l'instant, moi, ce que j'ai compris de ce que disaient les ingénieurs, on n'est pas prêt de faire décoller un avion avec de l'hydrogène parce que c'est la poussée d'Archimède est une contrainte forte et puis qu'il y a encore beaucoup trop de dangers par rapport à ça. Moi, j'espère qu'on va y arriver. Il ne faut pas qu'on se cache derrière cette solution, on va dire technique, hein, qui va améliorer. Pas plus qu'il faut qu'on se cache derrière la plantation d'armes. Mais moi, je voudrais vous dire quelque chose qui me semble important. Moi, j'habite à Clermont-Ferrand. On a fermé la ligne vers Orly parce qu'elle était concurrencée par le train et heureusement on l'a fermée. Alors on a gardé la ligne de Roissy. Mais je reçois quasiment toutes les semaines des courriers de la Chambre de commerce d'industrie, par exemple, qui dit il faut qu'on se batte pour réouvrir la ligne vers Orly parce qu'elle est symbole de l'attractivité ou de la perte de l'attractivité parce qu'elle est fermée de Clermont-Ferrand. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est de considérer que l'attractivité d'une ville, elle se mesure au nombre de liaisons qu'on peut avoir et en particulier à la liaison qu'on peut avoir vers Paris. Et tant que voilà, les élus ou les chefs d'entreprise seront dans cet état d'esprit, bah, ça va être difficile de changer le cours de l'histoire.
Hein. Puisqu'on est sur la question économique également, on a Mélissa qui nous écrit via WhatsApp et qui dit « Malheureusement, on ne parle pas assez de l'impact sur les emplois dans le secteur aérien et le tourisme si les trajets en avion venaient à diminuer. » Vous en pensez quoi, Jean Pinard ?
Non, moi je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que le tourisme, alors certes, progresse au niveau mondial, mais au niveau national, moi j'ai vécu les ouvertures de lignes sur des aéroports, c'est-à-dire en Occitanie, il y en a 9 d'aéroports internationaux. Quand on ouvre une ligne entre Dublin et Rodez, elle est à vocation export à 80%. C'est-à-dire que c'est plutôt les gens de Rodez ou du Massif Central.
Plutôt que l'attractivité dont vous parliez, c'est plutôt les gens qui en profitent pour aller pour partir, pour quitter
exactement.
La région.
Exactement. À Clermont-Ferrand, il y a trois lignes low cost, une vers Marrakech, une vers Porto. Autant vous dire que c'est pas de l'import. Hein. Et il y en a une sur Londres.
C'est pourtant joli, hein, Clermont-Ferrand.
Et l'Auvergne aussi, hein, mais voilà, ligne vers Londres, elle est à 80% export, donc ça c'est un leurre, faut pas se cacher derrière. Alors oui, évidemment, si demain on prenait plus l'avion, on va pénaliser des pays et des centaines de milliers de travailleurs dans les pays du Maghreb, en Grèce, en Italie, à Tenerife, aux Canaries. Je vous donne juste ce chiffre parce que je le regardais avant l'émission. Vous savez que sur l'ensemble des aéroports des îles Canaries, il y a plus de mouvements d'avion qu'à Roissy.
C'est énorme, effectivement.
C'est énorme. C'est plus de 1 000-1 200 par jour. Et c'est la même chose aux Baléares.
Nous avons Mathieu qui nous écrit via WhatsApp. Mais alors, on n'ira plus dans certaines destinations. On ne peut pas aller en Australie en train. Garance Bazin, ça veut dire ça. Ça veut dire renoncer aussi, tout court.
Alors, renoncer, il faut le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui prennent des vols internationaux, c'est vraiment pas la majorité de la population. Ce qui est essentiel, c'est de remettre de l'exceptionnalité dans un mode de transport qui est extrêmement polluant. Ce n'est pas ni forcément souhaitable, ni forcément normal dans la période de crise écologique qu'on est en train de traverser et qu'on va encore traverser pendant un certain temps, de dire que partir à l'étranger et prendre des vols long courrier plusieurs fois par an, c'est quelque chose de complètement banal. On peut être dans des milieux qui sont très aéromobiles, et dans ces cas-là, c'est compliqué de remettre ça en question, mais rien ne vous empêche, par exemple, d'aller au Japon un jour, ou en Australie, mais ne pas y retourner chaque année. Peut-être, déjà, ce serait pas mal. Aujourd'hui, on a quand même 75% des émissions de l'aérien qui sont dues aux vols de loisirs. Assez peu, au final, pour le business, et assez peu pour les vols, disons, familiaux. Donc, ça reste tout sauf anecdotique.
Marie sera notre dernière auditrice de cette émission. On vous écoute, Marie, bienvenue.
Oui, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et merci pour votre émission. Je serai brève, en fait je suis pilote privé et j'ai appris à piloter depuis un certain nombre d'années. Et cette année j'ai décidé de m'arrêter de piloter. Alors j'ai exercé ce pilotage de façon dans le cadre de loisirs, mais surtout j'ai pris conscience qu'en France nous avons 600 aéroclubs qui sont extrêmement dynamiques et avec des personnes tout à fait motivées pour l'apprentissage du pilotage privé. Mais j'ai aussi pris conscience que c'était aussi les antichambres de la formation des pilotes professionnels. Mmh. Et si on essaye de comprendre le cheminement pour le pilotage des avions de ligne, c'est que plus on forme de pilotes, plus il y aura d'offres de pilotes de vol. C'est pas que je veux être dans un esprit de contestation fondamentale, mais c'est que moi, j'ai pris conscience pour moi-même que plus je pilote moi en privé, plus aussi j'encourage le pilotage à une autre échelle. Voilà, donc j'ai pris cette décision et j'espère ne pas offenser d'autres collègues qui pilotent en privé.
Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Marie. Je crois que vous avez fait ça pendant 17 ans, Jean Pinard, sur effectivement, plus on incite les uns, plus on continue à prendre l'avion. Il y a un effet, un cercle malheureusement qui n'est pas très vertueux.
C'est clair. Et puis, vous savez, le tourisme, l'aérien d'une manière générale, c'est une économie de service. Donc c'est l'offre qui crée la demande. Donc plus on va multiplier l'offre, plus on encouragera la demande. Voilà, c'est aussi mécanique que ça. Est-ce qu'il faut brimer les gens qui répondent de manière ponctuelle à cette offre? Voilà, c'est difficile. Moi, je le redis, je regrette qu'il n'y ait pas une forme de hiérarchisation de la part des pouvoirs publics en disant, voilà, il y a ce type de vol parce qu'il est transatlantique et qu'on ne peut pas faire autrement. Vous avez cité l'Australie. Et puis, il y a vraiment des vols dont on peut se passer. Moi, je vous le dis à titre personnel, j'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui travaillent dans l'hémisphère sud. Et c'est difficile pour moi de ne pas prendre l'avion. Et pour l'instant, je résiste, mais c'est dur.
Garance Bazin, ce sera le mot de la fin, c'est effectivement ça, on n'est pas obligé de prendre des décisions radicales tout de suite, c'est ce que vous disiez, on peut faire ça avec une forme de modération, c'est ce que nous dit également Jean Pinard.
Oui, tout à fait, quand on a un mode de vie qui est très polluant, très aéromobile, c'est absolument intenable de passer de rien à tout, de devenir végétarien, de s'habiller en seconde main, d'arrêter de prendre l'avion, ça devient complètement hallucinant et intenable. Et il faut y aller étape par étape, tout est important, mais pas nécessairement de se mettre une pression monstrueuse sur telle ou telle chose. Au final, la pureté militante, c'est-à-dire la nécessité d'être parfait partout, ça fait beaucoup plus sombrer les gens qu'autre chose et ça ne va pas dans notre sens, simplement.
Merci beaucoup, Garance Bazin. Je rappelle que vous êtes doctorante en anthropologie de l'environnement à l'Université Paris-Nanterre. Nous étions également avec Jean Pinard. Merci beaucoup, consultant en progrès touristique et président de Futurotourisme. Et puis, on a accueilli dans cette émission, et on le remercie, Benjamin Martini, aka Tolt, sur Instagram notamment, qui est créateur de contenu sur le voyage et qui nous a expliqué, arrêter de prendre et de promouvoir l'avion, que c'était sa décision. Et puis, il continue à voyager. Vous pouvez tous continuer à voyager. On vous incite grandement à le faire, notamment cet été.